Oui, j'étais un petit peu embêté il y a un moment par rapport à cette intervention, en me demandant comment elle allait pouvoir se situer dans le contexte. Et puis en fait, plein de perches me sont tendues par la précédente intervention, dans la mesure où toute une série des questions que j'essaie de poser ont été mises en œuvre maintenant, là, à l'instant, en particulier avec la question d'ubiquité, par exemple, la question du panoptique ou des choses comme ça. Voilà, ce dont je vais parler, c'est... Enfin, je ne vais pas faire vraiment une intervention complètement structurée, parce que l'objet dont je voulais parler réclamerait plus de temps pour le faire sérieusement. C'est un objet de travail, c'est pour l'instant quelque chose qui est dans une situation d'inaccomplissement ou de recherche, et que je désigne peut-être pour l'instant seulement par l'expression « régime de visibilité », sans nécessairement être complètement certain de la validité de l'expression « régime de visibilité ». Mais je voudrais, pour que vous compreniez ce qui m'amène à me proposer cet objet comme un objet de travail, je voudrais vous donner deux, trois pistes sur les sources de cette réflexion, c'est-à-dire sur les chemins qui me conduisent à poser cette question de régime de visibilité, et donc d'une certaine façon qui éclaire certains des contenus de cette notion. Alors ça va paraître un petit peu bizarre ou divers, et ça l'est relativement. L'un des points de départ, c'est un travail sur le temps réel qui a commencé maintenant depuis un certain nombre d'années, et qui avait comme objet, pour aller vite, de prendre l'expression « temps réel » au sérieux, c'est-à-dire cesser de considérer le temps réel comme un pur résultat d'un processus d'accélération des dispositifs technologiques, mais d'essayer de réfléchir au contenu du temps réel comme concept. Et donc, l'idée était de réfléchir au temps réel comme une temporalité spécifique ou comme un ensemble de temporalités spécifiques. Pour ceux que ça intéresse, ils trouveront un certain nombre de textes là-dessus, sur le site de Plot, puisque la plupart des textes y sont, donc c'est... www.plotsem.net. Donc il y a un certain nombre de textes là-dessus. Donc l'idée, c'était d'essayer de rapporter l'idée des temporalités à des logiques causales, c'est-à-dire de dire il y a derrière tout principe de causalité une pensée de la causalité qui se met en œuvre, et donc d'essayer de montrer ou de faire apparaître les formes de la causalité qui supportent le concept de temps réel et qui lui donnent un contenu. Et l'une des choses vers lesquelles cela me conduit, c'est évidemment de concevoir la question du temps réel comme étant liée à des champs qui sont des champs de relations, des champs d'interaction, des espaces cybernétiques, etc. Mais du coup, c'est de concevoir le temps réel comme quelque chose qui se conçoit toujours dans un ensemble, et dans un ensemble qui représente une captation à une certaine échelle d'un certain nombre d'éléments qui sont mis en relation. De sorte qu'on est devant des temporalités qui sont des temporalités qui peuvent être complètement variables selon les échelles à l'intérieur desquelles on les prend et selon les éléments qui sont mis en œuvre. Si vous voulez, pour aller très vite, on peut très bien considérer que l'évolution biologique est un dispositif en temps réel qui s'étend sur des millions d'années et qui donc enveloppe un champ absolument énorme. Et on peut très bien avoir une installation en temps réel qui recouvre très peu d'éléments dans un espace extrêmement limité, etc. Donc, et ce qui m'intéressait du coup, c'est la façon dont quelque chose se dessinait, qui est un espace qui a une multidimensionnalité potentiellement infinie, en tout cas indéfinie, et donc qui pose évidemment tout le problème du passage d'une échelle à l'autre ou d'une dimension à l'autre, c'est-à-dire des choses que j'appelle moi des embrayeurs. C'est-à-dire comment on peut rentrer à l'intérieur d'un champ interactif en temps réel, spatio-temporel, ça implique qu'il y a des dispositifs d'accès, d'entrée à l'intérieur de ce champ. Ce que je me suis proposé d'appeler des embrayeurs. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, c'est la première source qui me conduit à m'interroger sur cette histoire de régime de visibilité. La seconde est extrêmement différente. C'est une vieille passion pour Machiavel et pour la lecture de Machiavel, qui est quelque chose qui m'accompagne depuis une trentaine d'années et qui m'interroge sur plein de, pour plein de raisons. L'une des raisons qui m'intéresse chez Machiavel, c'est que c'est, à ma connaissance en tout cas, la première fois, en tout cas c'est un exemple particulièrement intéressant, d'un univers sans extérieur, c'était d'un univers qui se pense comme un toujours déjà dedans. Dans la pensée machiavélienne, on est dans un champ qui est le champ politique, que Machiavel désigne et d'une certaine manière constitue au sens moderne comme un objet théorique. Et en même temps, ce champ est un champ sans extériorité, c'est un monde sans dehors. Et de sorte, si vous voulez, qu'on est toujours déjà pris à l'intérieur du champ politique et que les espaces à l'intérieur de ce champ politique font apparaître à ce moment-là des systèmes ou des logiques qui sont des logiques de visibilité ou de disparition, c'est-à-dire qu'au lieu de traiter la question du visible et de l'invisible, par exemple sur le régime du proche et du lointain, du dedans ou du dehors, de ce que l'on perçoit autour de nous, de ce qu'on ne perçoit plus parce que c'est trop loin, on est à l'intérieur d'un système dans lequel la question de la visibilité se pose aussi toujours déjà dedans et se pose comme un problème d'une position interne de l'invisible. C'est-à-dire on n'est pas, si vous voulez, dans un champ visible qui rencontrerait à ses limites de l'invisible, on est dans un champ qui est travaillé de l'intérieur par de l'invisible. Et c'est en particulier l'une des choses qui sont portées d'emblée quand on lit Le Prince, dans l'envoi que fait Machiavel à Laurent de Médicis, et dans cette très très célèbre proposition dans laquelle il dit que pour bien comprendre le peuple, il faut être grand, et pour comprendre les grands, il faut être peuple, et qui s'appuie sur une métaphore perspectiviste, c'est-à-dire que le peintre, s'il veut peindre le paysage de la plaine, il se met sur une montagne, et que si on veut peindre la montagne, eh bien, il faut qu'on soit dans la plaine. Sauf que cette histoire-là n'est pas simplement en jeu de la perspective, mais quelque chose qui, à l'époque même où la perspective apparaît, pose une autre question qui est très intéressante, c'est qu'on ne se voit jamais soi-même. C'est-à-dire que le lieu de l'invisibilité est toujours lié à l'identité du point de vue lui-même, et que ce qui est proposé, du coup, c'est un espace de déplacement. C'est-à-dire que le texte de Machiavel est lui-même une machine du déplacement. Comment déplacer le regard pour faire apparaître quelque chose qui, si l'on se stabilise, si l'on s'arrête, si l'on s'installe à l'intérieur d'un champ, du coup, est menacé ou habité par un point aveugle, par un point invisible, qui est la position même du sujet. Et d'où, du point de vue politique, des conséquences qui sont extrêmement importantes pour Machiavel, c'est-à-dire que dans un rapport de force, puisque chez Machiavel, la politique est un système de rapport de force, eh bien, l'énorme difficulté n'est pas d'évaluer la force de l'adversaire, mais de ne jamais se rendre compte exactement de l'état de ses propres forces relativement à celle de l'adversaire. Et donc on est dans une situation dans laquelle la fragilité du politique et l'ignorance dans laquelle il est de la réalité de sa position à l'intérieur d'un rapport de force. Et donc là, il y a quelque chose qui m'intéressait beaucoup et qui m'intéressait d'autant plus que il y a beaucoup de textes sur le rapport de Machiavel et de la perspective et qu'il est dans une époque qui est assez étonnante où on voit apparaître toute une série d'appareils, pour employer un terme qui est beaucoup utilisé aujourd'hui, par exemple par Jean-Louis Deshautes, mais aussi par d'autres, où, si vous voulez, les appareils de vision se développent extrêmement nombreux et sur un temps extrêmement court. C'est-à-dire qu'on voit apparaître la perspective, mais qu'on voit apparaître dans une poche temporelle étonnamment brève toute une série de choses qui sont la naissance du paysage, qui sont les voyages maritimes et le développement de la cartographie selon un certain nombre de règles qui sont d'ailleurs pas indifférentes par rapport à l'idée de la perspective, mais qui la prennent complètement dans un autre sens, qui sont les premiers théâtres construits, qui sont l'utilisation de la fenêtre comme un cadre de regard et donc l'invention de la fenêtre au sens moderne, qui sont la transformation du statut du jardin et le jardin comme un élément près de la maison, etc. Donc vous avez toute une série d'appareils de vision qui se créent en même temps et qui dénotent quelque chose qui est de l'ordre de ce que j'appelle un changement d'un régime de visibilité. Quelque chose s'instaure qui est un régime de visibilité et qui s'instaure sur un lieu ou sur un plan sur lequel ce régime de visibilité fait rupture avec un régime de visibilité antérieur. Donc, si vous voulez, je suis un peu gêné, entre parenthèses, par le fait que l'on puisse essayer de réduire ces appareils à un seul. Par exemple, je ne suis pas tellement d'accord avec Deshaute quand il ramène tout ça à l'appareil perspectif, comme si un seul appareil contenait tous les autres. Il me semble que c'est plus intéressant d'essayer d'envisager tous ces appareils comme étant à la fois inclus à l'intérieur de quelque chose qui est en train de se transformer et à la fois porteur de cette chose, et ce dans quoi c'est inclus et ce que cela porte à avoir l'un avec l'autre. Alors ce qui est porté, c'est un régime de visibilité, et ce qui est inclus, ou ce qui inclut ce régime de visibilité, eh bien, je propose de l'appeler une forme. Et cette idée de la forme, elle a une autre source, ou si vous voulez, elle suit un autre chemin qui est tout à fait étranger aux trois précédents, qui est une certaine récurrence d'une certaine thématique de la forme, d'une théorie de la forme, qu'on trouve chez un certain nombre d'auteurs qui vont de Leroy Gourhan jusqu'à François Dagonier, par exemple, dans un certain nombre de textes de la fin des années 70, dans lesquels des gens comme Dagonier explorent l'idée qu'on pourrait penser la construction de l'espace concret, c'est-à-dire non seulement l'espace qu'on perçoit, mais l'espace qu'on occupe, qu'on travaille, qu'on modèle dans nos pratiques, qu'on pourrait les penser en fonction de formes qui sont des logiques structurantes de cet espace. Et l'idée, c'est qu'il y a deux grandes logiques de forme, ou deux grandes formes, si vous voulez, donc englobantes. Une forme qui va être appelée par Dagonier, je pense, inspirée par Leroy Gourhan, comme étant une forme de type linéaire, et une autre forme qui, elle, est de type radial. Si vous voulez organiser un espace, il y a deux types de structures qui s'imposent comme des logiques spécifiques. Il y a une structure linéaire qui dispose des éléments les uns derrière les autres sur quelque chose qui est de l'ordre d'une ligne, pas nécessairement d'une droite, hein, mais d'une ligne, et dans lequel il y a une non-hiérarchie des éléments les uns par rapport aux autres, mais des fonctions de transport et de déplacement d'un espace à un autre. Alors, par exemple, chez Dagonier, qui étudie ça essentiellement par rapport au XVIIe, XVIIIe siècle, c'est le développement du commerce, en particulier du commerce maritime et du commerce fluvial, c'est-à-dire comment des cités rentrent en relation dans un effet de chaîne qui circule d'un espace à un autre. Et puis vous avez une forme radiale qui, elle, se pose dans un jeu d'opposition entre le centre et la périphérie, le dedans et le dehors, qui vise à un effet de territorialisation d'un espace à l'intérieur d'une limite, d'une frontière, et qui induit très rapidement un système de type pyramidal ou hiérarchique dans lequel le centre domine ou contrôle un espace qui s'étend par cercles concentriques de plus en plus loin autour de lui ou en système d'étoiles par des voies d'irrigation ou de contrôle. Le système le plus évident, c'est évidemment l'État français dans sa construction centralisée historique. Et c'est ce que vous vivez quand vous prenez le train et que vous avez la malencontreuse idée de vouloir aller d'une ville de province à une autre ville de province pour vous rendre compte que la solution la plus simple, c'est de passer par Paris. Et donc, vous êtes là complètement dans un système radial. Alors, pourquoi cette idée de forme m'intéresse-t-elle ? Eh bien, pour une raison, en quelque sorte, double ou convergente. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où tout ça m'est apparu comme se convergeant dans une sorte d'espace un peu de tension, si vous voulez, ou un espace critique, comme il était dit hier, c'est-à-dire au sens à la fois d'un endroit de condensation et de fragilité, si vous voulez, de la, d'un processus. Alors, d'un côté, il y a cette notion très forte qui s'est développée, qu'on a entendue cet après-midi au travers de la notion d'ubiquité, ou qui est, si vous voulez, l'autre face de la notion d'ubiquité, qui est l'idée que nous vivons dans un monde sans dehors. C'est-à-dire que nous sommes dans un univers qui ne se pense plus dans la construction d'une altérité extérieure, d'un au-delà de la frontière, mais on est dans un univers qui est un dedans. Et ça conduit tout de suite à une sorte de difficulté qui, moi, me pose problème et que je voudrais souligner, c'est que dire qu'on est dans un monde sans dehors, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est dans un monde clos. C'est-à-dire que je suis pas du tout en train de dire, voilà, on est dans un monde qui s'est fermé sur lui-même, et donc qui est clos, qui est sa propre frontière. Dire qu'on est dans un monde sans dehors, cela relève plus pour moi d'une logique ou d'un type de fonctionnalité, c'est-à-dire de quelque chose que j'appelle de l'ordre de la forme, plutôt que quelque chose qui est de l'ordre de la clôture et qui correspond à cette idée très simple. Eh bien, on a occupé la totalité de la Terre, on a terminé la conquête, si vous voulez, du globe, la sphère s'est refermée sur elle-même, nous sommes dans un monde qui s'est clos sur lui-même. Alors, il me semble que c'est tout à fait insuffisant, que la question n'est pas véritablement là. Mais par contre, cette idée d'un monde sans dehors me semble irriguer ou informer toute une série de réflexions ou de constructions qui se développent, par exemple, sur le terrain de la philosophie depuis pas mal d'années et que l'on va pointer sur des formes extrêmement différentes. Chez Deleuze, évidemment, le célèbre texte sur les sociétés de contrôle est un texte qui vous parle d'un monde sans dehors et qui fonctionne comme un monde dans lequel le dehors a disparu, y compris le dehors des institutions. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans... souvenez-vous, je pense que vous avez lu ce texte, que vous connaissez ce texte. Souvenez-vous, par exemple, du passage dans lequel Deleuze dit comment il y a eu un âge où nous allions d'institution en institution, où on était dans la famille, puis dans l'école, puis dans l'armée, puis dans l'usine, puis etc., et où nous sommes dans un monde dans lequel ces clôtures institutionnelles sont entrées en crise et où, en fait, on est sans arrêt dans une espèce de poursuite ou de continuum et dans un continuum sans extériorité qui fait que, par exemple, la formation permanente professionnelle, etc., va succéder à l'école et que nous allons être en permanence en formation, qui est l'analyse des limites de la manière dont l'hôpital s'ouvre et on va pouvoir se faire soigner à la maison, etc., sur des choses comme ça, mais qui sont, si vous voulez, cette idée que du coup, il n'y a plus d'interstice, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espace extérieur qui serait des espaces sauvages, ce qu'a représenté la rue pendant très longtemps, ce qui a fait que la rue pouvait être un espace révolutionnaire pendant longtemps, ou d'aventure, etc. C'est que c'était un espace sauvage. Et tout le monde sait bien aujourd'hui que la rue n'est plus un enjeu, par exemple, révolutionnaire. C'est bien pour ça qu'on peut développer les arts de la rue officiellement, comme on les développe. Et c'est bien pour ça que le discours des arts de la rue se heurte aux problèmes en permanence de la difficulté qu'il y a à tenir un propos critique social dans un espace où ils sont un spectacle complètement intégré dans un processus. Donc cette distance critique a disparu. Voilà, donc il y a cet aspect-là, cette idée. Bon, puis ça se retrouve hein, chez Negri, etc. Parfois d'une manière caricaturale, chez Virilio. Enfin bref. Donc on est devant cette idée très forte d'un espace sans dehors. Et puis quelque chose d'autre arrive derrière, c'est qu'évidemment dans cet espace en dehors, on est aussi dans un espace en réseau. Et il est bien évident pour tout le monde que, enfin, vous comprenez bien immédiatement, évidemment, que ce qui constitue cet espace en dehors, c'est évidemment le caractère réticulaire de cet espace. Et c'est le fait, si vous voulez, que le réseau est devenu la forme à l'intérieur de laquelle nous pensons le monde et nous agissons à l'intérieur du monde. C'est que je ne fais pas simplement allusion au réseau, au prototype des réseaux qui est Internet, évidemment, à ce modèle qui concentre le concept du réseau qui est Internet, mais à la forme même du réseau comme forme de pensée de l'espace et comme forme de la pensée tout court que vous pouvez trouver chez Deleuze dans Mille Plateaux, mais que vous trouvez, par exemple, sur le terrain scientifique depuis une bonne trentaine d'années. Si vous vous intéressez un peu, par exemple, à la théorie du chaos, mais vous verrez que la théorie du chaos est une théorie qui appelle un espace de type réticulaire. Et nous sommes devant une structure qui est une structure à l'intérieur de laquelle nous pensons. C'est pour ça que je l'appelle une forme. Si on réfléchit à l'idée du réseau, si on s'intéresse par exemple à son histoire, on observe quelque chose qui me semble extrêmement intéressant. Au XVIIe siècle, le concept de réseau, enfin, la notion, le terme de réseau existe tout à fait. Il occupe un espace social extrêmement défini qui est celui du travail du fil, de la broderie, du tissage. Et le réseau trouve sa source, si vous voulez, dans cet espace. Et ce qui est assez intéressant, c'est d'observer la façon dont le terme de réseau va être importé à l'intérieur d'autres espaces et va acquérir un statut et un sens de plus en plus fort, mais en même temps qui va s'infléchir dans ce processus d'importation. L'importation commence en médecine, hein, avec un médecin italien qui est, mais d'une manière, je dis parce que c'est relativement intéressant, qui est l'un des élèves ou des successeurs de Harvey, vous savez, qui a découvert la circulation sanguine, qui est en même temps l'un des premiers au XVIIe siècle, à la fin de la deuxième partie du XVIIe siècle, à utiliser le microscope et à rentrer dans une médecine microscopique, et donc qui est quelqu'un qui à la fois travaille sur une forme de circulation, ce qui est extrêmement intéressant, et sur des modes de tessiture. Il va utiliser la notion de réseau en particulier pour parler de la peau et des formes du tissage de la peau. Donc on est là devant un premier déplacement qui va se développer au XVIIIe siècle au fur et à mesure qu'avec le développement du commerce et de certains types d'économies, d'un certain type économique, on va voir se développer les réseaux de communication, en particulier les réseaux routiers. Dans un premier temps, le XVIIIe siècle est le siècle qui balise le territoire. Et la quantité de routes, par exemple en France au XVIIIe siècle, double ou triple, et on commence à gérer la structure de la route. Le travail de la cartographie se développe d'une manière extrêmement précise pour mesurer le territoire, le tisser, etc. Et on a un premier concept, enfin, si je suis dans l'ordre, un troisième concept du réseau qui est en train de se structurer et d'apparaître, et qui est de nouveau lié à la circulation. C'est-à-dire le couple réseau-circulation est un couple fondamental, c'est un couple structurant. Simplement, si vous pensez à ce réseau-là, qui va acquérir sa pleine plénitude au XIXe siècle, on parle beaucoup de réseau au XIXe siècle, beaucoup plus que ce qu'on croit aujourd'hui, eh bien, le réseau tel qu'il apparaît au XIXe siècle est complètement lié aux formes industrielles en réseau qui se développent et qui sont liées à l'énergie par le biais de la machine à vapeur, le chemin de fer, etc., mais aussi la découverte et le développement d'électricité, etc. C'est-à-dire on voit apparaître des industries en réseau. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce que désigne le réseau, ce sont des canaux. Essentiellement, c'est des canaux, c'est-à-dire ce sont des voies. Donc le réseau apparaît comme une structure, si vous voulez, comme une sorte de mixte entre ce que j'ai désigné tout à l'heure comme une structure de type radial, c'est-à-dire qui fonctionne dans le rapport du centre à la périphérie, et comme une structure de type linéaire, qui est typiquement la structure de la circulation ou du déplacement, qui est une structure qui existe dans le mouvement. Par exemple, structure sociale de type linéaire typique chez les anthropologues, c'est les sociétés nomades non pas qui vont à l'infini, mais qui définissent un territoire à l'intérieur d'une boucle, n'est-ce pas ? Mais d'une boucle qui n'est pas une frontière. Ce qui structure le territoire, c'est la ligne dans laquelle s'effectue le déplacement. Donc on voit le réseau apparaître comme l'endroit où se résout l'antagonisme de ces deux formes, c'est-à-dire la forme radiale et la forme de type linéaire, mais le réseau renvoie quand même à l'infrastructure fixe et immobile du processus du mouvement qui circule à l'intérieur de cette infrastructure. Fondamentalement, c'est le réseau routier. Si vous voulez. Voilà, vous avez le réseau routier, puis vous avez des voitures qui circulent, qui se déplacent à l'intérieur de ce réseau routier. Et les choses commencent à changer complètement. Donc, si nous sommes là, nous sommes devant une sorte de synthèse des deux formes, mais nous sommes néanmoins toujours dans l'horizon de ces formes qui sont la forme radiale ou la forme linéaire, qui sont des formes qui, l'une et l'autre, ont un dedans et un dehors. Si nous sommes, par contre, si vous regardez ce qui se passe à peu près au milieu du XXe siècle, eh bien, vous voyez d'un coup la notion de réseau basculer, et on peut très bien repérer un certain nombre des lieux ou des points de basculement de la notion de réseau. On peut en donner en vrac. Par exemple, l'un des premiers que je trouve intéressant, c'est ce célèbre texte de Pitts et McCulloch qui fait la relation, qui établit la relation en 1943 entre le modèle cybernétique, la logique binaire et le réseau neuronal du cerveau. Et c'est à ce moment-là, et pas que commencent, si vous voulez, ou que sont donnés les éléments structurants de l'analogie entre ce qui va devenir la machine informatique quelques années après, mais dont le concept est présent, est en train de surgir absolument simultanément, et le cerveau. Or, si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est que dans ce texte, indépendamment de ces aspects logiques, techniques, etc., il y a une autre opération qui se joue dans ce texte qui est absolument magnifique, c'est que d'un coup, ce qui constitue le réseau, ce n'est pas la préexistence d'éléments à l'intérieur desquels quelque chose circule, c'est la circulation elle-même. C'est-à-dire qu'évidemment, vous avez des éléments qui ont un rôle d'interrupteur ou de bifurcateur, qui sont les neurones, mais ce qui constitue le neurone dans sa fonction, c'est le mouvement du flux. Si vous voulez. Ce qui est important, ce n'est pas l'infrastructure sur laquelle ça circule, qui à la limite est occasionnelle, qui peut être le cerveau, mais qui peut être aussi bien ce qui va être la structure de l'ordinateur et qu'on commence à penser avec des tubes à vide, etc., à ce moment-là. C'est-à-dire que la structure répond au processus, répond à la circulation. si vous voulez, quelque chose apparaît qui est de l'ordre du flux. C'est-à-dire que le concept du flux est lié au réseau, mais ce n'est pas parce qu'il y a un réseau qu'il y a du flux, c'est parce qu'il y a du flux qu'il y a un réseau. Ce qui définit le réseau, c'est le processus de la circulation du flux. C'est le flux qui fait réseau. Ce n'est pas le réseau qui permet du flux. Alors évidemment, matériellement, il faut qu'il y ait du réseau pour qu'il y ait du flux. Si vous n'êtes pas branché sur Internet, vous n'aurez pas Internet. Mais le fait que vous soyez branché ou pas ne change rien au fait que le réseau existe et qu'il fonctionne. Et qu'il fonctionne en permanence comme un mouvement de déplacement et de circulation des flux. Et l'existence du support peut parfaitement bouger. C'est-à-dire le fait qu'il y ait centre n'est pas structurel. Vous pouvez déplacer le centre. Le fait que tel lieu fasse centre, c'est parce qu'il y a beaucoup de téléphones, mais s'il y a beaucoup de téléphones, c'est parce qu'il y a beaucoup de passages, c'est parce qu'il y a une forte densité ou une forte intensité du réseau. De sorte, si vous voulez, que vous avez une sorte de logique dialectique entre le réseau comme infrastructure et le réseau comme mouvement ou comme flux, et que ce qui devient intéressant, c'est de penser un espace qui est un espace réticulaire, qui a cette propriété de ne pas avoir de dedans et de dehors, mais qui a la propriété d'être une permanente circulation d'impulsion, et dans lequel ce qui se joue, ce n'est pas du centre et de la périphérie, mais c'est plutôt des nœuds de densité ou d'intensité des échanges, et au contraire, des endroits dans lesquels cette densité diminue, même si elle diminue ou elle se raréfie jusqu'au vide, jusqu'à la disparition. Mais ce vide ne fait pas extériorité par rapport à la logique du réseau, si vous voulez. Il n'y a pas une frontière constitutive du réseau. Si vous êtes dans une structure radiale, la frontière est structurante de la structure. Pas de frontière, pas de structure radiale. Si vous êtes dans une structure linéaire, la boucle de la structure linéaire est structurante et elle définit à ce moment-là un dedans et un dehors. Mais si vous êtes dans un réseau, la logique de circulation du flux dans le réseau n'a pas besoin d'une frontière et d'un extérieur à elle pour se constituer. Elle se déploie dans un processus qui est un processus interne, mais qui la laisse parfaite en tant que forme ou en tant que structure. De sorte, si vous voulez, qu'il n'y a pas de dehors au réseau. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui sont exclus du réseau, ce n'est pas ça que je veux dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espace en dehors du réseau. Bien sûr que si, il y en a de l'espace. Et le réseau n'annule pas, contrairement à ce qu'on dit, les autres espaces. Ça veut dire que le réseau comme forme n'a pas d'extériorité. Et par exemple, ça veut dire, si je me mets d'un coup sur un terrain politique, que vous ne pouvez pas lutter du dehors contre le réseau politiquement. Ça veut dire que le seul espace d'affrontement ou de lutte ou de construction ou de critique ou d'altérité du réseau se trouve à l'intérieur du réseau lui-même, et se pense non pas comme externalité, si vous voulez, mais comme une altérité interne à l'intérieur du processus. Bref, nous sommes dans un champ qui est un champ non pas fermé sur lui-même, mais qui est un champ sans extériorité. Alors, à partir de là, évidemment, les différentes voies que j'évoquais tout à l'heure commençaient à se rejoindre ou à converger les unes à l'autre. C'est-à-dire que si je me mets dans une forme de type réticulaire, je suis dans une forme sans dehors, un petit peu comme chez Machiavel. Et se pose pour moi la question qui se posait pour Machiavel et qui m'intéresse en partie chez Machiavel, qui est cette question de la limite du visible et de l'invisible. À quel moment il y a-t-il distribution du visible et de l'invisible? C'est un petit peu ce que j'appelle un régime de visibilité, c'est-à-dire quelque chose qui justement structure cette différenciation entre le visible et l'invisible. De la même façon, si j'évoque ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure, c'est-à-dire aux différents instruments, aux appareils de vision de la Renaissance, eh bien, je me rends compte que ces appareils de vision ont un certain nombre de caractères qui sont des caractères... je suis au bout, j'ai encore quelques minutes. 5. 10. Oh. Donc, je me rends compte que ces appareils portent avec eux un certain nombre de traits, si vous voulez, qui peuvent constituer ce qu'on pourrait appeler un régime de visibilité spécifique. Alors c'est toujours un peu con de se mettre à énumérer, vous savez, ce genre de caractère comme une sorte de liste, et ensuite, on est tout de suite amené à se mettre... Alors, dans le nouveau régime de visibilité, on va reprendre les mêmes choses pour montrer que c'est différent. Il y a des espèces de logiques un peu sottes, comme ça, vers lesquelles on tend, hein, enfin, je veux dire, qui s'offrent... c'est comme un objet de désir, ça fait système, ça, et on est tout de suite attiré par ce genre de choses. Bon, c'est un peu dangereux. Alors, du coup, je flirte un peu avec, en ce moment, ne serait-ce que pour... comment dire, que pour tester le truc, pour me dire à quel endroit ça marche, à quel endroit ça ne marche pas. Il y a plusieurs endroits qui sont extrêmement tentants de ce point de vue. Alors, par exemple, ce qu'on peut appeler la distance, c'est le rapport de la distance. L'une des caractéristiques des appareils de visibilité renaissants, si vous voulez, de ceux qui sont à l'aube de l'âge moderne, eh bien, c'est que ce sont toujours des appareils qui divisent en deux le champ de la représentation. Il y a, si vous voulez avoir une image très, très simple, eh bien, vous prenez le théâtre, la structure du théâtre. Vous êtes dans la salle et vous regardez la scène, ou bien vous êtes sur la scène et vous êtes face à la salle. C'est-à-dire que ce sont des systèmes de face à face dans lequel ce qui permet à la représentation de se constituer, c'est un effet de distance qui constitue la représentation comme cela qui n'est pas nous et qu'on regarde. Et tout l'art, évidemment, consiste à ce moment-là à jouer sur cet effet de distance, sur cette distance constitutive de l'objet comme représentation, et de jouer, par exemple, pour nous séduire, pour nous attirer, pour nous faire rentrer dans la représentation, ou au contraire, pour nous repousser ou nous mettre dans une situation critique, assis dans notre fauteuil. Et c'est comme ça que joue la peinture, et c'est comme ça que joue la photographie, et c'est comme ça que joue à une puissance extrême le cinéma, dans ce face-à-face ou dans cet élément de distance qui constitue la structure de la représentation telle qu'elle se développe au début de l'âge moderne. Deuxième élément qui peut être très intéressant, c'est justement la notion même de la représentation. Ces appareils fabriquent de la représentation. Ils sont dans une structure dans laquelle ce qui est produit, c'est de la représentation. Et si on regarde la façon dont cette représentation fonctionne, dans le mode de cette représentation fonctionne, en tout cas par rapport à l'image, mais on pourrait aussi dire des choses par rapport au son là-dessus, eh bien, c'est fondé sur un type de temporalité que je me permettrai d'une manière un peu, comment dire, un peu gonflé, un peu brutal, comme ça, d'appeler une temporalité de l'arrêt. Vous savez, il y a un vieux mythe de la naissance de la peinture qu'on trouve chez Pline l'Ancien, hein, et qui est rapporté souvent, c'est une belle tradition de la naissance de la peinture, et Pline l'Ancien raconte comment une jeune fille dont l'amoureux ou l'amant est amené à partir pour un long voyage, sous-entendu sans doute la guerre, eh bien va dessiner sur le mur l'ombre portée du visage de son amant. Le mythe a d'ailleurs deux fonctions, c'est aussi le début de la sculpture, puisque son père qui est potier, va remplir cette forme en donnant consistance et volume à la, au visage. Eh bien, si vous voulez, nous sommes dans un processus d'arrêt, nous sommes dans, de fixation, qui constitue la représentation par cet effet de détachement temporel qui fait que quelque chose a été arrêté, qui se conserve et qui donne d'un coup toute cette temporalité de la représentation qui est la temporalité, si vous voulez, du temps... Enfin, je ne vais pas dire du temps différent, ça, c'était... trop, c'est pas bien comme schématisme, mais qui va par exemple donner ce rapport oh, ça a été, bon, je vous renvoie à Barthes par rapport à la photo, etc. C'est quelque chose qu'on trouve d'une manière relativement constante, c'est-à-dire que la représentation est une fixation. Même quand on a affaire à du spectacle vivant, même quand on a affaire à du mouvement, à ce moment-là, l'arrêt n'est pas du même ordre. Cet arrêt, c'est pas nécessairement une immobilité. Cet arrêt, c'est comment on crée un moment 1, qui était 1, je veux dire, il est dans son unité, dans sa consistance, comment on le crée et qu'on le détache comme un moment séparé qui existe en soi. Alors, dernièrement, par exemple, je lisais un texte de Cage, dans lequel, d'une manière extrêmement intéressante, Cage repère ce moment-là du débarrage, de l'arrêt, c'est-à-dire ce moment où il faut faire silence pour que le morceau de musique commence, et comment lui travaille à se passer ou à remettre en question ce moment de silence avant le commencement, ou si vous voulez, ce moment qui constitue la pièce comme une, et il va la travailler de différentes façons, au travers de ce qu'il appelle les parenthèses musicales, et donc la possibilité d'une pièce qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin, évidemment, mais comment aussi il arrive à la célèbre pièce, vous savez, des 4 minutes, etc., de silence, qui sont exactement ce moment-là, mais ce moment-là qui devient lui-même le contenu de l'œuvre. C'est-à-dire que ce moment, il n'était pas dit à l'avance, ça va durer tant de temps, c'est l'interprète qui a décidé du temps par rapport à ce qui se passait et à ce qui se remplissait dans cette temporalité dans le rapport au public. C'est-à-dire que vous êtes exactement devant toute une série de démarches qui visent à faire sauter cet arrêt. Et alors, on pourrait citer, on a parlé tout à l'heure de pièces qui se conçoivent comme sans début ni fin, ou dont le commencement ou la fin est une décision après coup arbitraire qui structure quelque chose mais qui ne l'arrête pas. Je pense à ce que tu as fait écouter, qui est absolument de cet ordre. Il y a pas, le début et la fin n'est pas une structure de la pièce, c'est une décision qui après coup saisit un temps, mais un temps qui a évidemment une antériorité et évidemment une succession qui est inclue dans l'écoute, comme au moins dans le concept de l'élément qui est donné. Bref, nous sommes en train nous sommes dans un temps où cette fonction de l'arrêt ne marche plus. Et évidemment, ce temps-là, c'est le temps eh bien, d'une image qui se constitue comme flux elle-même, c'est-à-dire d'une image qui est non plus sur le modèle de la représentation et de l'arrêt, mais qui est sur le modèle du transcodage et de la transformation potentielle et perpétuelle. De la même façon, nous sommes devant, par exemple, je vous donne en vrac des trucs à partir de ça, nous sommes dans un moment où l'appareil change d'orientation ou d'indexation. Si vous êtes devant les appareils perspectifs, qu'on a oubliés puisqu'il y en a beaucoup à la Renaissance et qu'ensuite on n'en a plus besoin, on les évacue énormément, mais on les retrouve avec la photographie et le cinéma, vous êtes dans des appareils qui fonctionnent sur l'alignement de l'œil, de l'appareil et de l'objet, et qui constituent d'une manière très, très structurante, si vous voulez, un appareillage de l'œil par rapport à l'objet. Et donc, ils sont indexés sur le corps, en tant que le corps polarise un champ de vision par rapport à l'objet. Bon, déjà, avec la photographie, on crée un œil qui est détachable du corps et qui renvoie à un corps potentiel, qui n'est pas encore virtuel, mais qui est potentiel. Et du coup, on peut chercher des angles de vue différents. le cinéma le déclenche. C'est qu'il faut attendre le début du cinéma pour voir les photographes utiliser cette possibilité de la photographie. Et le cinéma crée un regard sans, dans lequel la présupposition du corps joue d'une manière extrêmement intéressante, extrêmement sophistiquée, la plus sophistiquée. Vous pouvez, par exemple, regarder une image filmée par une caméra en ne vous posant pas la question du tout de qui filme, c'est-à-dire en acceptant l'idée qu'il n'y ait personne. Mais vous pouvez exactement, le plan d'après, être dans un plan subjectif dans lequel vous acceptez complètement cette fiction qui a là un regard qui est bien là et qui porte la caméra, etc. C'est-à-dire que vous êtes devant un appareil qui, y compris dans sa structure et sa production, génère un certain type de rapport au corps et à la présence qui est constitutif de l'espace fictionnel propre, par exemple, du cinéma, ce qui se constitue dans le champ contre champ, etc. Bon, je ne vais pas développer. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on voit d'un coup apparaître des appareils dont il me semble que l'indexation change, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus indexés sur le corps, mais ils sont indexés sur la machine. Laquelle machine n'est plus indexée sur elle-même, mais est indexée sur le réseau. C'est-à-dire qu'un ordinateur, c'est déjà un réseau, et en même temps, c'est un périphérique par rapport à un réseau plus grand. Donc on est un appareil, d'ailleurs c'est vachement bien, les appareils numériques significativement n'ont plus de viseur, ou s'ils ont un viseur, il ne sert à rien, et on ne les utilise pas. Ils ont un écran, et cet écran n'est jamais que l'écran témoin qui vous donne une indication de ce que sera l'image sur l'écran auquel elle est destinée, qui est l'écran d'ordinateur au moins. Et du coup, ce qui se joue dans cet appareil, c'est sa potentialité de déplacement ou de transfert de l'image, de sorte, si vous voulez, que de plus en plus, vous pouvez avoir des appareils, d'ailleurs, qui ne répondent à aucun œil. Il n'y a aucun œil derrière une caméra de surveillance, etc. Il y a d'ailleurs tellement de caméras de surveillance que les informations ne sont pas traitables par quelque œil que ce soit. Donc il faut qu'il y ait bien des logiciels qui traitent en fonction d'un certain nombre de codes et de critères les informations qui sont données. Bref, on est dans un réseau à l'intérieur duquel les appareils apparaissent comme les interfaces, si vous voulez, ou les embrayeurs du réseau par rapport à d'autres espaces du réel qui sont saisis. Voilà, du coup, et je vais conclure là-dessus, parce que là j'ai bouffé mes 10 minutes, du coup, je suis très intéressé par cette façon de renvoyer, par exemple, à la notion de panoptique. Je vous dis ça vite pour que vous voyez quelques conséquences de ce que je viens de raconter, qui après tout pourrait paraître totalement sans intérêt. Hein. Donc, par exemple, l'idée de panoptique me gêne, appliquée. Alors, à la fois, on en a envie. Je veux dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un partout possible du regard qui fait penser au panoptique. Sauf que le panoptique, c'est typiquement une structure radiale et c'est typiquement une structure qui est basée sur l'image de type projective. Vous avez un point central et ce point central, il se termine par un rond. Et si vous voulez, le fantasme du panoptique ou son idéal, c'est d'éliminer le hors-champ ou le hors-cadre. Sauf que dans tout système de représentation, il y a néanmoins quelque chose. Il n'y a pas de tout visible, jamais. Ce qu'un régime de visibilité fait, c'est qu'il négocie la part du visible et de l'invisible. Il ne peut pas, par définition, évacuer totalement l'invisible. Et dans le panoptique, c'est très clair. L'invisible est évacué à l'extérieur. Et d'ailleurs, dehors, c'est un mur qui est percé de fenêtres, mais qui ne sont pas du tout faits pour voir dehors, qui sont faits pour éclairer l'intérieur des cellules, qui sont totalement ouvertes sur la cour, et donc visibles par le point central. De sorte, si vous voulez, que vous créez une espèce d'idéal sans hors-champ ou sans hors-cadre, mais avec un prix formidable, qui est l'éjection en dehors du système de la totale, du reste du monde, qui, lui, est totalement invisible. Et si vous voulez, à ce moment-là, ce qui m'intéresse dans le réseau, et où je pense que ce n'est pas du tout un panoptique, c'est qu'il y a évidemment du regard partout, mais du regard de quoi et de qui, et qui pose le problème de son lieu d'invisibilité. Or, le lieu d'invisibilité, il est interne. Il est exactement machiavélien, si vous voulez. C'est-à-dire, à aucun moment quelqu'un ou quoi que ce soit ne peut percevoir la totalité de ce qui se joue à l'intérieur du réseau. Donc, le point de vue lui-même est un processus en déplacement. C'est un mouvement. Et à la limite, si vous regardez toujours la même chose, vous ne voyez rien. Et la question, ça devient au contraire de se déplacer. Et ça devient de créer des mouvements et, des déplacements à l'intérieur du réseau. Donc effectivement, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'ubiguïté, mais pas au sens d'une transparence, à mes yeux, ni exactement d'un panoptique, mais presque d'un anti-panoptique ou d'un panoptique inversé, où à la limite, le point d'invisibilité, il est lié au point de vue lui-même. Bon, je vais m'arrêter là.